bonsoir et bienvenue dans ce temps du débat spécial à l'occasion de la journée spéciale de France Culture Imagine le monde de demain en partenariat avec la revue Ouzbek et Rika. Depuis ce matin, vous avez pu écouter sur notre antenne des économistes, des historiens, des philosophes, des écrivains, des scientifiques évoquer chacune et chacun le monde d'après. Dans le temps du débat, nous allons nous demander si le monde d'après sera si différent du nôtre. Nous poursuivons ainsi une conversation mondiale entamée sur le site de France Culture par l'équipe du temps du débat pendant le confinement. Puisque cette crise est mondiale, mais qu'elle ne nie pas les particularités régionales ou nationales. Après tout, les opinions publiques de chaque pays comparent et compareront sûrement les actions de leur gouvernement à ceux des autres pays. Nous avons choisi, dans cette conversation mondiale, de demander des textes à des écrivains, des artistes ou des intellectuels du monde entier, sous ce titre générique, donc une conversation mondiale. Une bonne vingtaine sont déjà en ligne sur le site de France Culture. Deux des auteurs de ces contributions sont avec nous ce soir, Piroshka Nagy, nous la remercions de cette levée tôt au Québec où elle enseigne, elle est professeure d'histoire du Moyen-Âge à l'Université du Québec à Montréal et elle est spécialiste d'histoire des émotions et on peut dire que des émotions nous en avons tous ressenti très contradictoires pendant cette période. Giuliano De Ampoli est essayiste, ancien conseiller du premier ministre italien Matteo Renzi et certains des livres de Giuliano De Ampoli résonnent avec la situation actuelle. Et enfin, la chercheuse Valérie Niquet, responsable du Pôle Asie et maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, elle est spécialiste évidemment de cet espace géographique avec eux et elle, et à distance, chacune et chacun confiné chez soi. Nous posons ce soir une question simple, donc le monde d'après sera-t-il si différent du nôtre ? Je vais commencer avec vous, Giuliano De Ampoli. Vous aviez, quand vous aviez 23 ans, c'était en 1996, ça permettra aux auditeurs de faire le calcul de votre âge, vous aviez publié un livre qui a fait grand bruit en Italie, qui s'appelait « Un grande futuro dietro di noi », un grand avenir derrière nous. Alors évidemment, ça traitait de la révolte générationnelle, de votre génération vis-à-vis de ceux qui vous avaient précédé. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais néanmoins, on peut reprendre votre titre. Est-ce qu'un grand avenir est désormais derrière nous, selon vous, Giuliano De Ampoli ? Bonjour.
Bonjour. Mais vous voyez, c'est l'avantage des Italiens. Sur les crises, on est toujours un peu en avance. Mais non, sérieusement, je pense que c'est plutôt le contraire aujourd'hui, parce que vu que nous n'avons pas véritablement de présent et nous sommes tous confinés chez nous, en face de nos ordinateurs et comme l'on dit, la guerre qu'on nous demande de faire aujourd'hui, elle est sur nos canapés. Et donc, comme nous n'avons pas de présent, nous sommes tous en train plutôt d'imaginer et de vivre déjà dans le futur. Et d'ailleurs, je suis abonné à une newsletter d'une sorte de sociologue américain d'origine russe qui s'appelle Yevgeny Morozov, que vous connaissez peut-être, qui est d'ailleurs très bon. Et chaque jour, il envoie 400, quelque chose comme 400 articles qui ne sont pas des informations. Ce sont simplement des scénarios et des visions de l'après. Donc, je dirais que nous sommes plutôt immergés dans ça aujourd'hui.
Même question pour vous, Piroshka Nagy. Est-ce que, en tant qu'historienne, spécialiste du Moyen-Âge, vous pensez que notre grand futur est derrière nous ? Et j'imagine que vous pensez votre présent, justement, en relation avec ce long travail sur la longue durée que vous avez mené à partir du Moyen-Âge.
Ben pour moi, en fait, la première chose, c'est que, évidemment, je ne suis pas du tout spécialiste du monde contemporain, mais pour penser le Moyen-Âge, il est absolument nécessaire, et il a été nécessaire pour moi, de réfléchir sur le temps présent et ceci inscrit dans un temps long. Donc, il y a 30 ans, quand j'étais étudiante, ça donne aussi mon âge, le récit du processus de civilisation occidentale victorieuse fonctionnait encore comme récit, avec son branchement sur la notion de progrès, de rationalisation. Et autant l'histoire des émotions que la manière dont le monde va ou ne va pas a permis de obliger plutôt à repenser cette question, une grosse réflexion, comment peut-on encore faire confiance à un progrès qui nous amène en fait à un monde qui s'autodétruit. Je pense avant tout évidemment au rapport à la nature et sur quelle base penser ce monde. Et donc pour moi, en fait, la crise est extrêmement révélatrice de notre rapport au temps, parce que oui, on nous oblige tout le temps à se projeter dans un futur, et on peut dire même que le confinement, c'est une sorte de projection dans un avenir. Est-ce qu'on en a envie de cet avenir, de monde qui est totalement hors sol, où nous sommes devant nos écrans, où nous sommes enfermés dans nos solitudes avec extrêmement peu de relations sociales, où nous sommes... quelque part délié de la nature. Vous, en France en particulier, vous ne pouvez pas même se promener. Mmh. Et d'autre part, cela nous met aussi en rapport avec cette étrangeté que finalement nous traitons mal notre temps, notre rapport au passé, à ces vieux qui sont eux confinés dans des mouroirs d'un côté, et aux jeunes, à l'avenir, qui n'ont pas exactement un avenir devant vous qui soit digne d'être vécu. Que je pense autant aux boulots qui n'en valent pas la peine, sans aucune espèce de avenir d'ascension sociale, et surtout ce que les jeunes vivent de façon très très fort, c'est la crise écologique et donc l'impossibilité de vivre le monde qui s'en vient.
Valérie Niquet, vous êtes spécialiste de l'Asie, vous avez travaillé aussi sur la pensée chinoise et en particulier la pensée stratégique en Chine. J'imagine que justement cette remise en cause d'une vision occidentale du rapport au temps, de notre justement ce que fait la crise, ce que nous fait effectivement le monde à l'arrêt que nous vivons aujourd'hui, est peut-être pensée différemment du côté de la Chine, qui par ailleurs est tout de même le réservoir qui donc a débordé et jusque atteindre par l'intermédiaire de cette maladie la totalité de l'humanité.
Mais en fait, à la fois, c'est extrêmement important de se poser des questions fondamentales, notamment sur notre rapport à la nature, à la biodiversité. Mais c'est affreux de dire ça, mais d'une certaine manière, cette crise épouvantable qui justement touche le monde dans sa globalité et qui part de Chine me rend presque optimiste sur la capacité à réfléchir à d'autres visions du monde. Et justement, quand on dit que la Chine aurait une sorte de... Enfin, met beaucoup en avant le fait que eux sont capables d'apporter des nouvelles valeurs dans la gestion des crises, beaucoup plus que nos régimes épuisés et que nos démocraties qui ont fait leur temps. Au contraire, ce qui vient de se passer, qui part de Chine et qui est évidemment lié à l'intrusion dans le monde sauvage par l'être humain, mais qui est essentiellement dû à la manière dont cette puissance, qui est devenue la première puissance notamment économique et commerciale quasiment dans le monde, n'a aucun système qui repose justement sur nos valeurs à nous de transparence, de respect des règles, même si elles sont pas toujours mises en application d'une manière efficace chez nous, elles existent. En Chine, le système les rejette fondamentalement et on voit à quoi ça aboutit, à une crise qui est évidemment liée à la biodiversité, mais qui est d'abord celle d'un système, et ce système, ça n'est pas le nôtre, c'est le système communiste qui est en place en Chine depuis 1949 et qui a fait énormément de tort dans l'histoire à sa propre population. Je rappelle le grand bond en avant, 30 millions de morts, la révolution culturelle, les emprisonnements continuent, y compris au Xinjiang aujourd'hui, et on voit que ça déborde, comme vous le disiez maintenant, parce qu'on a laissé la Chine, avec ce type de système, ce n'était pas le cas de l'URSS auparavant, prendre une place absolument majeure dans tous les réseaux de globalisation. Et ça interroge évidemment le rôle aussi des grandes entreprises occidentales qui, pendant très longtemps, ont trouvé un avantage certain, je pense aux entreprises du médicament, à fabriquer des produits en Chine, où les coûts et surtout les règles environnementales étaient beaucoup moins développées que chez nous.
Giuliano D'Ampoli, dans un entretien qu'il a donné récemment au Monde, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, dit que sa crainte justement par rapport à ce monde d'après, c'est qu'il ressemble au monde d'avant, mais en pire. Est-ce que vous pensez qu'il y a là, disons, une vision qui est nourrie par le travail des chercheurs qui travaillent forcément avec le ministère des Affaires étrangères, ou est-ce que c'est simplement parce que nous sommes en plein creux de cette crise et que nous n'en voyons pas la sortie qu'on peut penser cela, Giuliano D'Ampoli?
On peut très certainement penser cela aussi parce qu'en effet, cette crise met sous tension très forte nos systèmes et nos démocraties. Et s'il est vrai qu'il révèle des faiblesses du modèle autoritaire chinois, comme cela vient d'être dit, il pose de très gros problèmes à notre système aussi. On le voit, c'est une véritable crise existentielle qui s'ouvre et notamment par rapport à nos institutions démocratiques. D'abord, il y a une première question qui s'est posée au cours de ces semaines, c'est-à-dire on voit quelle est l'importance de la dimension physique dans l'exercice des droits démocratiques. À partir du droit de protester et de manifester, il y a des pays en Europe même qui ont pu aujourd'hui essayer de prendre l'avantage du fait qu'on ne peut pas manifester pour introduire des règles plus autoritaires qui risquent de rester après la crise aussi. C'est le cas on a vu ça en Russie, mais on a vu ça aussi plus près de nous en Hongrie. Et puis il y aura un très fort stress qui viendra après par les retombées économiques de cette crise qui seront très graves. En Italie, on prévoit par exemple une baisse du produit national brut de 15% cette année. Donc c'est une récession de dimension énorme. Et surtout, il y a une véritable dimension d'impensable qui s'est introduite dans nos vies, non? C'est-à-dire que il y a des choses impensables qui se sont produites. Et ça, c'est favorable à tous les bouleversements. Ça ouvre la voie à tous les bouleversements. Il peut y en avoir de positifs aussi. Et je pense que il y a quelques indicateurs quand même qui nous disent qu'une sortie par le haut de cette crise est possible. Mais les risques sont quand même considérables.
Piroshka Nagy, vous qui êtes spécialiste d'histoire du Moyen-Âge et qui avez contribué donc à notre conversation mondiale avec un texte que j'invite les auditeurs à lire sur le site de France Culture, vous pensez, vous, que ce moment est unique parce qu'effectivement c'est un moment particulier, un monde à l'arrêt, ça ne s'est pas imaginé, même dans les films de science-fiction ou dans les récits de science-fiction, mais que c'est aussi la possibilité pour chacun et chacune d'entre nous de se demander si ce qui se préfigure dans notre quotidien aujourd'hui, ces écrans, ce télétravail, la peur de l'autre aussi, si on en veut ou si on n'en veut pas, c'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de dire non à ce monde.
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment unique dans ce qui se passe, c'est de voir que cet arrêt du monde, cet arrêt de l'économie dont on nous a toujours dit que c'est impossible pour changer de direction d'arrêter l'économie, eh bien voilà, des volontés politiques ont arrêté les économies, les unes après les autres. Ce dont on disait même au moment où ça se passait à Wuhan, ce serait jamais possible en Occident, eh bien c'est cette devenue. Donc on a une crise qui a été créée. En quelque sorte, la crise économique a été créée par ces décisions politiques qui sont commandées non pas par l'économie pour une fois, mais par la primauté de la santé publique. Est-ce que, avec cette même volonté politique, on peut essayer de penser un monde meilleur qui prenne en quelque sorte en main les trois grosses crises du monde actuel, qui est la crise évidemment de notre rapport civilisationnel à la biosphère, la crise des inégalités grandissantes allant de pair avec la destruction des choses publiques et ce qui en est la conséquence, la crise de confiance dans les institutions démocratiques.
Mais Valérie Niquet, vous qui êtes spécialiste de l'espace asiatique et en particulier de la Chine, on a vu comment la Chine était devenue indispensable, et vous le disiez tout à l'heure, au reste du monde, en particulier par cette expression qu'elle est l'usine du monde aujourd'hui. Est-ce que pendant que nous arrêtons et que les usines continuent à tourner en Chine, puisque désormais cette crise est supposée être derrière elle pour l'espace chinois, est-ce que elle réfléchit elle aussi à changer de modèle, ou est-ce que il y a que chez nous que momentanément pendant ce temps d'arrêt nous réfléchissons à d'autres possibilités, en particulier au rapatriement, à la relocalisation de certaines des industries que nous avions confiées à ce territoire?
En fait, la Chine, enfin, quand on dit la Chine, le système politique chinois, il faut pas confondre les Chinois qui le subissent et le système lui-même, réfléchit à ne pas changer le modèle, au contraire. Et la grande terreur aujourd'hui qu'on sent très bien dans beaucoup de publications, et d'ailleurs dans le frénétisme de déclarations de propagande à laquelle on assiste de la part de Pékin, qui prend des proportions qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, il y a cette peur que justement le modèle change. Parce que on a beaucoup dit que la Chine a fait des progrès, c'est certain, considérables, mais la Chine continue d'être extrêmement dépendante du monde extérieur, des marchés, et notamment des marchés des pays les plus développés, Amérique du Nord, Union européenne, qui ne peuvent pas être remplacés par les marchés des pays émergents où l'influence de la Chine est plus forte, et des investissements et des transferts de technologies. La Chine en a besoin pour continuer sur la ligne de son développement, le développement étant lui aussi une des sources de légitimité essentielle pour le parti. Et donc, pour la Chine aujourd'hui, la priorité, c'est que rien ne change. Que cette image tragique qu'on a vue émerger d'une Chine qui était la source de problèmes fondamentaux et qui impose à nous-mêmes de nous poser des questions sur la globalisation telle qu'elle a été mise en place jusqu'à très récemment, eh bien, tout ceci, c'est vraiment une menace considérable pour le système chinois contre lequel elle essaye absolument de lutter. Et juste un dernier point sur ce qui m'intéresse aussi d'observer, y compris en Asie, quand on pense à la Chine, Taïwan par exemple, c'est j'ai vu une publication qui expliquait que les pays qui s'en sortaient entre guillemets le mieux étaient des pays qui étaient dont les systèmes politiques étaient dirigés par des femmes. On parlait de l'Allemagne, de la Nouvelle-Zélande, du Danemark, de Taïwan par exemple, et d'autres. Et peut-être on assiste aussi à la fin d'une certaine hubris ou de volonté, enfin en tout cas l'échec de ce type d'attitude et le triomphe d'une attitude plus terre-à-terre, pratique, modeste, pragmatique, qui est justement le contraire de ce que le pouvoir chinois tente d'imposer et de préserver aujourd'hui.
Et d'autant que, Valérie Niquet, tout de même, on peut se dire que ce sur quoi est fondée la richesse de ce pays, la richesse de cette nation, comme aurait dit Adam Smith, eh bien pour l'instant, c'est le libre-échange qu'il défend de mordicus, alors que tout le monde commence à se dire, eh bien, il faut peut-être refermer les frontières, il faut peut-être faire en sorte que cette mondialisation économique et commerciale soit différente. J'imagine que ça pose des questions au sein du pouvoir chinois ces temps-ci, Valérie Niquet.
Oui, et effectivement, on a beaucoup dit, et c'est vrai que la Chine était, parmi tous les pays émergents et au-delà, celui qui avait le plus bénéficié de la globalisation depuis son entrée à l'OMC, qui était fondée sur un présupposé qui s'est révélé une erreur, qui était que l'engagement de la Chine dans le système international allait entraîner l'évolution graduelle du système, du régime, alors que pour le régime, c'est justement, c'est une sorte de stratégie, hein, un peu comme la NEP à l'époque de Lénine, mais alors poursuivie d'une manière bien plus importante, qui est que, d'une manière pragmatique, on s'ouvre, on commerce, parce que ça consolide les fondements du système politique pour que, justement, il ne change pas. Simplement, on voit aujourd'hui qu'il y a eu une contradiction en Chine entre de plus en plus d'ouverture économique qui aboutit tout de même à des évolutions politiques. Et Xi Jinping, et c'est encore sa position aujourd'hui, a eu comme volonté de refermer tout ce qui était non utile à l'économie, tout ce qui pouvait être favoriser une prise de conscience et une évolution du système politique, et c'est encore sa priorité. Donc pour le moment en Chine, même si beaucoup certainement, y compris au sein du Parti communiste, réfléchissent à d'autres manières de continuer à faire vivre le système d'une manière plus durable, la position actuelle des dirigeants chinois, c'est de tout faire pour préserver le système et justement d'éviter qu'il change. Parce que c'est ce qui fonde la puissance et l'intérêt et l'attrait économique de la Chine, c'est cette divergence entre des règles sur son propre territoire qui permettent des avantages de coûts et de production considérables et un marché totalement ouvert sans aucun contrôle à l'extérieur.
Vous écoutez Le Temps du débat sur France Culture, une émission spéciale lors de la journée spéciale de France Culture. Imagine le monde de demain.
France Culture, Le Temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Giuliano Nampoli, vous travaillez et votre dernier livre est consacré aux ingénieurs du chaos et à la question des data en particulier, de tous ces gens qui, ces ingénieurs du chaos, c'est ainsi que vous les appelez, qui ont profité, en particulier les partis populistes, du savoir de personnes qui, grandies dans le domaine informatique, ont utilisé les données pour conquérir le pouvoir ou pour faire conquérir le pouvoir à ceux qu'ils soutenaient. Est-ce que vous voyez justement dans ce monde d'aujourd'hui, et vous l'avez confié dans le texte que vous avez donné pour la conversation mondiale, vous voyez justement cette grande divergence autour de ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas de données?
Oui, je crois qu'il y a, on voit ça au moins à deux niveaux. Premièrement, au niveau des forces publiques et des États, effectivement, on a vu que les réponses ont été très diversifiées, et ce qui fait la différence entre l'efficacité de la réponse des différents pays, c'est la possession surtout de données sur la diffusion du virus, et donc la possibilité de pratiquer des tests, et d'isoler, de tracer les personnes qui sont contaminées. Et sur ça, on a vu évidemment que certaines démocraties de l'Asie étaient beaucoup plus préparées que les pays européens, aussi parce que en réalité, elles avaient l'expérience du virus du SARS. Il faut quand même pas oublier que nous ne sommes pas en face d'un événement tout à fait imprévu. Le virus s'appelle techniquement SARS-2 parce que c'est une évolution d'un virus qui existait déjà, et certains pays qui avaient été touchés en précédence s'étaient préparés par rapport à ça. Et en Europe aussi, on voit bien que les pays qui réagissent mieux sont soit les pays qui ont justement une capacité de faire des tests de façon systématique, comme c'est le cas par exemple de l'Allemagne, soit par contre les pays qui, en l'absence de données, ont eu une capacité et une volonté politique forte. Alors, on voit bien qu'un pays, par exemple, comme le Danemark, qui a choisi de fermer très tôt, on parlait du leadership féminin, je crois que c'est très important à souligner aussi, par rapport à l'attitude churchillienne, masculine de certains leaders qui disaient « on va faire face, c'est une guerre, mais on va continuer à aller au théâtre et à être, disons, viril face à la menace qui se profile », des leaderships souvent féminins, ça a été le cas de la Nouvelle-Zélande, justement, du Danemark et d'autres pays, avec une attitude plus modeste, ont immédiatement choisi de faire face, de fermer, et on voit bien la différence entre les résultats. Après, il y a un deuxième aspect qui se relie un peu plus prochement de mon dernier livre, Les ingénieurs du chaos, qui est effectivement l'utilisation aujourd'hui que l'on fait et que font certaines puissances de la possibilité aujourd'hui de viraliser des nouvelles et des informations pour propager le chaos. Et parce que, encore une fois, nous sommes dans une position de vulnérabilité unique. Chacun est isolé, ne communique que par des instruments du digital, et nous sommes tous dans un état d'anxiété et de peur. Et donc, ça donne la possibilité à des campagnes virales et très ciblées et très efficaces d'une certaine façon de manipuler et de conditionner les opinions publiques. Et on a vu sur ça, par exemple, la Chine, on en parlait, se lancer dans des opérations très agressives au cours des dernières semaines.
Et un économiste, Philippe Askenazi, disait récemment dans la presse que tout compte fait, ce que l'on peut imaginer, c'est aussi une sorte de trop-plein du numérique pendant nos vies confinées, et que Giuliano Nampoli, à l'issue de ce moment-là, même si ces GAFA auront collecté des milliers d'informations, des centaines de milliers d'informations sur chacun d'entre nous pendant cette période du confinement, ce qu'il appelle la camisole numérique puisse sauter, et qu'au bout du compte, cet avenir soit un peu différent, parce qu'on aura tester justement tout ce que le numérique a de bon, mais aussi de contraignant pour nos propres vies. Qu'est-ce que vous en pensez, Giuliano Nampoli?
Oui, tout d'abord, je pense que c'est vrai que ces instruments nous ont beaucoup, énormément aidés au cours de cette phase, mais elles nous ont aussi un peu fait perdre une occasion existentielle. C'est-à-dire que, au lieu d'utiliser cette période quand même comme une vraie période de pause et de réflexion, après les premières journées comme ça d'ébahissement, ça a été toute une multiplication d'appels, d'apéritifs digitaux, de communication permanente, etc. Et je crois que là, nous avons malheureusement, d'une certaine façon, vraiment un peu raté une opportunité de méditation et d'arrêt. Mais au-delà de ça, par rapport à ce que vous disiez, je pense que oui, c'est-à-dire cette crise est un accélérateur de tendances qui étaient en cours, ça a été dit. Et donc, d'un côté, elle a énormément renforcé et souligné l'importance que la dimension digitale et des communications digitales a dans nos vies, mais d'un autre côté, et donc l'emprise de ces machines, et on voit bien que quand même ce qu'on appelle les GAFA et même d'autres instruments sortent quand même a priori renforcés de cette crise de façon considérable, mais d'un autre côté, c'est vrai que aussi la réflexion critique qui était déjà en cours par rapport à ces instruments qui existaient déjà et qui étaient en train de monter en puissance avant la crise, elle va, je pense, aussi sortir renforcée de cette crise. Donc, encore une fois, l'issue est très ouverte.
Pierre-Oscar Nagy, en réfléchissant en tant que historienne du Moyen-Âge, vous avez réfléchi à la question des émotions au Moyen-Âge, la façon dont elles se transformaient. On sait que ces émotions sont présentes justement sur ces réseaux sociaux, qu'elles sont parfois même exacerbées. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle justement dans la possibilité de sortir d'un mode d'émotion vers autre chose et donc peut-être imaginer un nouvel avenir en regardant en face la façon dont nous gérons nos émotions en parallèle avec la façon dont nos ancêtres, ceux qui étaient là avant nous, en particulier au Moyen-Âge, les géraient?
Alors, je dirais, je ne sais pas si je vais parler du Moyen-Âge, mais je vais parler des émotions, c'est certain. Donc, les émotions, en fait, on les conçoit beaucoup comme des choses très discrètes, coupées les unes des autres. Alors que ce que l'histoire des émotions, ce que l'étude des émotions a beaucoup révélé et beaucoup utilise beaucoup, c'est l'idée que les émotions sont des processus. Souvent, un chagrin cache une colère, une peur peut révéler une rage ou indignation, le désespoir peut muter en espoir, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, il y a ce que l'historien américain William Reddy a appelé la navigation émotionnelle, c'est leur devenir d'une émotion à l'autre et qui est aussi moteur d'action, qui est moteur d'agentivité, de capacité d'action. Donc, on traverse des sentiments, des émotions plutôt que vivre ou ressentir un seul. Et c'est certain que c'est un moment extrêmement émotif parce qu'on est confiné, on est renvoyé à soi, à son univers, aux contradictions de nos propres vies. En se posant les questions de comment on va s'en sortir, comment on va même ne pas attraper le virus, on se pose bien sûr une série de questions très, très émotionnelles. Aussi, tous les deuils infaisables, la souffrance de ceux qui perdent quelqu'un, qui n'ont pas la capacité d'aller les voir une dernière fois, même de les enterrer de façon convenable. L'Italie en sait bien plus que d'autres. Et donc, on sent bien que les émotions, contrairement à ce que nous avons appris dans l'opinion commune pendant des décennies, sont étroitement liées à la raison, au raisonnement individuel et collectif, contrairement à ce qu'on a eu tendance à penser en pensant le monde avec les fameux binômes de la culture occidentale qui opposent émotion et raison, et nature et culture en même temps. Donc l'émotion est une force formidable, un moteur d'action et d'action politique collective
et positive selon vous.
Et oui, tout à fait, et positive. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'émotion surtout collective a pu être si décriée par les élites tout au long de l'histoire occidentale et plus près de nous à la fin du 19e siècle, je pense, de Hippolyte Taine en passant par Gustave Le Bon et jusqu'à Sigmund Freud, en fait. Donc, l'émotion fait peur parce que ça peut mettre en œuvre une solidarité, une émotion collective qui est une capacité d'action.
C'est ce que vous espérez d'une certaine façon en écoutant Pierre-Roch Canage.
Donc on peut, au lieu de la décrire, on peut, au lieu de d'en laisser le privilège aux mains des ingénieurs du chaos, est-ce qu'on peut pas la canaliser pour penser et créer un monde meilleur?
Valérie Niquet, est-ce que vous pensez que il y aura à l'issue de cette période, une fois que le dégel sera vraiment accompli, que les questions de déconfinement seront derrière nous, est-ce que vous pensez qu'on demandera des comptes, qu'on cherchera des boucs émissaires? Vous disiez tout à l'heure que la Chine ne voulait pas reconnaître sa propre responsabilité, la responsabilité de son système sanitaire, son système social dans ce qui s'était passé et qui s'était répandu dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'on va leur demander des comptes à la Chine dans le futur proche, justement, ce monde d'après? Ce serait un monde où il y aurait, disons, soit une justice internationale, soit, disons, des discussions internationales autour des responsabilités des uns et des autres.
Déjà, des comptes ont été demandés par Trump, évidemment, mais pas uniquement en Australie, certaines entreprises. Le problème, c'est que en termes de droit international, et dans la mesure où notamment à l'ONU, la Chine fait partie des pays membres du Conseil de sécurité qui ont un droit de veto, où elle pèse d'un poids considérable dans toutes les institutions multilatérales qu'elle a essayé d'ailleurs de transformer en y imposant ses propres normes, ce sera très difficile de voir la Chine telle qu'elle existe aujourd'hui, accepter de rendre des comptes, parce que ce serait reconnaître aux yeux de l'opinion publique internationale, mais surtout aux yeux de sa propre opinion publique, la faillibilité, le côté faillible, je perds mes mots, du système, et qui est justement ce que le système ne peut pas reconnaître. On parlait du sens de l'histoire, c'est encore un système en Chine où on va vers le progrès. On nous parle sans cesse du 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois, qui se prolongera dans le 100e anniversaire en 49 de l'apparition de la République populaire de Chine. Donc on va vers la lumière, on va vers le progrès. Il est hors de question que le Parti communiste admette qu'il est faillible. Ce serait remettre en question tous les fondements de ce qui fait sa légitimité.
Allez, continuez.
Oui, en revanche, en Chine même, des comptes aussi sont demandés d'une manière beaucoup plus discrète. On parlait d'information. L'information circule très peu. Elle est très opaque. Elle est réprimée. Les secrets d'État peuvent vous mener très rapidement en prison. Les chercheurs étrangers, d'ailleurs, qui travaillent sur la Chine, sont souvent aussi la cible d'attaque lorsqu'ils révèlent certaines choses. Donc, en fait, mais en Chine même et au sein du parti, encore une fois, un peu comme ça s'était passé d'ailleurs en URSS, on voit émerger des gens qui sans doute vont demander des comptes, non pas au régime en soi, mais à son dirigeant actuel, c'est-à-dire Xi Jinping, dont certains se demandent s'il pourra faire ce qu'il avait souhaité faire, c'est-à-dire rester entre guillemets président à vie ou quasiment à vie, et si son sort ne sera pas scellé assez rapidement, notamment à l'occasion du prochain congrès du parti, si ce n'est avant.
Giuliano Lampoli, La Repubblica, cette semaine, se posait la question, le grand journal italien se posait la question de savoir s'il y aurait une génération Covid. C'est-à-dire si, tout compte fait, cette expérience vécue par beaucoup de gens dans le monde entier, et on vient de parler du cas chinois, peut-être une nouvelle génération qui tenterait de faire chuter la précédente, est-ce que vous pensez que, justement, cette question de ce que va faire sur la vision de l'avenir, en particulier cette pandémie, ça pourrait être une sortie de crise différente avec d'autres générations qui penseraient autrement que celles qui sont au pouvoir actuellement?
C'est vrai que là, nous avons pour la première fois, peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale, une expérience collective qui touche une génération dans son ensemble. Et donc, effectivement, on peut imaginer que cela produise un effet. Après, ce qui n'est pas encore clair, c'est la durée de tout ça, parce que nous raisonnons sur des scénarios, mais il y a deux jours, le principal expert consultant de la Maison Blanche en matière d'épidémie, le docteur Fauci, a dit que nous aurons probablement le problème du Covid qui va se représenter à l'automne et avec lequel on devra vivre très longtemps. Donc, il ne faut quand même pas oublier qu'avant d'arriver au monde d'après, il y a un monde d'entretemps, de convivance avec le virus qui risque d'être très long. Et selon la durée et les modalités de cet entretemps, je pense que ça va avoir un impact énorme sur l'après, évidemment. Parce que là, si en France, on parle du 11 mai. Bon, si le 11 mai était une date à laquelle la vie progressivement reprend de façon, retourne vers la normalité. Bon, alors on parlerait de quoi? On parlerait de 2 mois d'arrêt, on parlerait d'une petite chute dans le produit national brut, on parlerait évidemment d'un certain rôle, de certaines figures, on a bien vu que la hiérarchie sociale normale ne correspond pas à la hiérarchie de l'utilité en temps de crise. Donc là, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y ait par rapport au personnel soignants et à certaines catégories une forte révalorisation, mais bon, je ne pense pas qu'en soi cela serait transformatif. Par contre, si nous sommes en face de un an, 2 ans avec des modalités de vie radicalement altérées pour tout le monde par la permanence et la menace permanente du virus, alors là, oui, je crois que à tout point de vue, nous entrerons après dans un monde qui sera très différent de l'actuel.
Pierre Rochka agit depuis le Québec où vous enseignez l'histoire du Moyen-Âge. Je sais bien qu'on ne peut pas faire de parallèle entre les grandes pestes, la grande peste de 1348-49 et ce qui est en train de nous arriver. Elle a ponctionné un tiers de l'humanité à ce moment-là. Mais néanmoins, on se dit, est-ce qu'après une grande catastrophe comme celle-ci, eh bien, on rebat les cartes. Or, certains historiens disent non, les régimes qui étaient en place à ce moment-là, sont restés en place. La royauté n'a pas été renversée dans ces pays. Il y a eu certes parfois des révoltes, mais surtout, disons, une façon de s'imaginer comme étant puni dans un contexte chrétien. Est-ce que vous pensez justement que ces grandes crises sont l'occasion d'un grand bouleversement ou au contraire, eh bien, tout compte fait, on va, vous l'espérez, on voit bien que vous l'espérez, mais au contraire, on va redémarrer comme avant.
Évidemment, la grande peste, on en a beaucoup fait comme un tournant. La grande peste ne dure pas que 2 ans, donc ça, c'est aussi une peste qui revient pendant des années, des décennies. C'est quelque chose qui a défini la vie de l'Europe pendant des décennies et a changé beaucoup de choses aussi par rapport à la surpopulation qu'il y a eu, qui était difficile à nourrir au début du XIVe siècle, où le monde occidental était arrivé à un trop-plein. Et donc, c'est sûr que c'était une occasion, de recherche de boucs émissaires, des révoltes contre les Juifs, des pogroms. C'était aussi une grosse crise d'examen de conscience. Donc, beaucoup de mouvements pénitentiels sont nés ou renés à ce moment-là. Il y a eu tout un monde remise en cause avec les énormes autodafés de toutes les vanités, donc ça, c'est très très intéressant parce que on peut faire le lien avec la pléonexie actuelle.
Qu'est-ce que vous appelez la pléonexie?
La pléonexie, c'est le fait de toujours vouloir plus. Il y a un livre de Robert Danny Dufour qui parle de cela. C'est le fait de toujours vouloir plus qui caractérise quand même notre monde productiviste et consumériste. Et donc, Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui a changé. Mais c'est aussi, si on regarde beaucoup plus près de nous, on y a fait référence, les métaphores de guerre qui sont utilisées et qui sont pas nécessairement très bien placées en face du Covid. Il y a quand même on sait qu'il y aura quelque chose à reconstruire parce qu'il y a une destruction. Et là, il faut penser, moi je pense beaucoup plus aux grandes crises du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale ou surtout après 1933, l'énorme crise économique à laquelle on commence à comparer ce qui advient actuellement. Par exemple, aux États-Unis, on a créé l'assurance chômage. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé des États-providence qui prenaient en main les choses tout à fait autrement que ce n'était auparavant. Donc, moi, si je reviens à la question de l'indignation, des émotions, donc la peur transformée en colère, en indignation devant les inégalités énormes, tant dans le monde occidental qu'entre l'Occident et le reste du monde, cette indignation aussi devant un horizon fermé si on continue dans cette logique, il me semble que on peut quand même nourrir un mouvement qui ne soit pas que virtuel et fondé sur la colère pour ne pas sauver, comme après 2008 uniquement, le monde de la finance et les multinationales qui nous gouvernent, mais au contraire, sauver les gens dont la santé a devenu une première préoccupation pendant cette crise, dans un monde où on s'est aperçu, mais peu à peu, que même l'humain est devenu une marchandise entre la ressource humaine puis celui qui circule à travers le monde de la même façon que les choses.
Merci beaucoup, Piroshka Nagy. Merci à vous, Giuliano D'Ampoli. Je rappelle que vous êtes auteur des Ingénieurs du Chaos, sorti l'année dernière, je pense. Merci à vous, Valérie Niquet, spécialiste de la Chine, d'avoir participé à cette discussion à distance et d'avoir permis à ce temps du débat d'être si passionnant. Je remercie toute l'équipe également du temps du débat qui a poursuivi pendant le temps du confinement notre conversation mondiale. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Hugo Boursier, Rémi Baye et Manon Prisset. Une conversation mondiale qui continue d'ailleurs, pendant que nous redémarrons nos émissions, sur le site de France Culture, des textes donc que nous avons demandé à des intellectuels, des écrivains, des artistes du monde entier pour réfléchir à ce qui nous arrive. Et je remercie à l'occasion Pierre Repère et le service web de France Culture de travailler avec nous à la mise en ligne justement de tous ces textes de nos invités. Merci également à tous ceux qui ont rendu possible cette émission un peu exceptionnelle à distance, Jean-Marc Clos, mais aussi Christian Denis Le Sèvre, Marie-Christine Desly, et puis à la technique Thibaut Assimben et Audrey Guélil qui étaient avec nous depuis la maison de la radio. Quant à la réalisation, elle est assurée par Alexandre Manzanares. À lundi, et le thème donc de ce temps du débat lundi, c'est l'État est-il le plus à même pour nous protéger, avec trois intervenants, Volker Schoendorf, Olivier Christin et Anne Désine. Merci et bonne continuation sur l'antenne de France Culture.